Ok, c'est bon. Que veux-tu savoir?
Alors, Sylvie Blocher, vous êtes invitée pour cette exposition Stopover. C'est vrai que c'est une exposition un peu particulière parce qu'il y a eu une première étape à Paris et puis cette exposition arrive à Fribourg avec un nouveau concept, une nouvelle redéfinition et elle repartira, on l'espère, à São Paulo. On est en train d'y travailler, on croise les doigts et donc c'est vrai qu'il y a énormément de Sud-Américains, mais il y a quand même un mélange. Parce que c'est vrai que pour cette exposition, il était important de ne pas parler de nationalité. Mais il y avait quand même une caractéristique et une œuvre qui me touchait particulièrement et pour laquelle j'avais vraiment envie de trouver un moyen pour trouver un moyen pour traduire cette œuvre qui s'appelle Dignidad, qui fait partie d'une série. Vous en avez déjà réalisé plusieurs séries. Là, c'est vrai qu'on passe du vous au tu, mais c'est égal. On continue cette interview de cette manière-là. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses importantes parce que c'est une œuvre qui est très très riche. Et j'aurais voulu connaître un petit peu mieux comment vous avez réalisé cette œuvre à Buenos Aires et dans quel contexte.
En fait, on est venu me chercher comme souvent. On est venu me chercher parce qu'on sait que je ne viens jamais avec mon travail, mais que je filme sur place. Donc c'est une sorte de processus de travail que j'ai mis en place depuis 1991. Donc Dignidad fait partie d'une série qui s'appelle Les Living Pictures. Donc ce sont une série de vidéos qui repose un peu sur le même, j'ai envie de dire, dispositif de travail. C'est-à-dire j'arrive dans un lieu, une question autour de laquelle je veux travailler. Je détermine ça souvent, pratiquement toujours, par rapport à ce qui m'arrive sur place quand j'arrive dans un pays ou une ville que je ne connais pas. Il y a des super talons aiguilles qui viennent de passer, donc j'ai un moment d'absence, mais voilà. Donc en fait, quand je suis arrivée à Buenos Aires, on m'invitait, c'était à la fois le musée d'art contemporain, mais ils m'ont invitée dans un moment où, c'est en 2002, c'est-à-dire que la crise est épouvantable en Argentine. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'invitent, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui travaille sur place et qui donc forcément va devoir affronter cette situation. Je ne sais pas quel mot exact, mais en tout cas, que l'œuvre va être perturbée avec ça, ou je ne sais pas, enfin bon. En tout cas, quand je débarque là-bas, je suis extrêmement impressionnée par ce qui se passe. Je le sais par les journaux, je le sais par... je ne sais pas si les gens peuvent maintenant se rendre compte qu'une ville qui était espèce de joyau d'Amérique latine, qui bizarrement est aussi une ville très... c'est Paris en beaucoup plus beau parce que c'est la même architecture, d'ailleurs c'est presque les mêmes architectes, mais il y a une sorte de végétation extrêmement luxuriante. Les Argentins sont un mélange de Prussiens et de gens de Naples. C'est arrivé au XVIIIe siècle. Les gens sont incroyables, ils ont ce côté extrêmement méditerranéen et en même temps ils sont je ne sais pas comment on peut dire de façon pas très vulgaire, mais ils sont incroyablement il y a quelque chose d'extrêmement sexy dans cette civilisation, chez ces gens, parce qu'ils sont, tout le monde se touche, il y a une espèce de... Alors, la situation était dramatique, j'arrive à Buenos Aires, les gens n'ont plus de travail depuis des mois, les fonctionnaires n'ont plus de travail depuis des mois, les gens font les poubelles la nuit, le pays est obligé d'affréter des trains vide parce que des centaines de gens arrivent par train le soir pour fouiller dans les poubelles de Buenos Aires. Et pour moi, c'est comme le Moyen-Âge, comme une sorte de retour inouï. Et du coup, il y a des choses incroyables qui se passent, c'est-à-dire une sorte d'économie qui est obligée de se repenser, une économie solidaire, une économie d'échange, de services. Enfin, il y a plein de trucs assez particuliers qui se passent. C'est dans ce contexte que j'arrive. Donc moi, je pense que j'ai été extrêmement impressionnée. Je ne suis pas du tout moderniste. Je ne pense pas que l'art peut sauver quoi que ce soit ou peut apporter le bonheur. Mais en même temps, je pense que l'art peut juste parfois extrêmement... ça nous permet de regarder les choses d'un biais un petit peu différent. Voilà, c'est ça, comment dire, j'aime quand même qu'on n'en sorte pas indemne. Je ne sais pas comment dire ça autrement.
Disons que tu travailles beaucoup avec l'émotion. Quoi. C'est-à-dire que bon, tous ces gens ont passé 53 minutes de...
Je ne sais pas si... De Alors, oui.
Ils sont tous très engagés quand même, même dans leur regard, oui. même dans les
oui.
silences.
Oui, oui, mais parce qu'il se passe quelque chose de particulier. D'abord, comme toujours, je mets une annonce dans les journaux. Alors là, je suis passée par le Journal National. Donc je mets une annonce, que c'est toujours pareil à ma photo. Et je mets en dessous que je suis invitée, en l'occurrence, par le Musée d'Art Moderne, que je vais tourner une pièce à Buenos Aires. Et que je demande si des gens accepteraient de venir tourner avec moi. Il fallait qu'il y ait deux conditions, qu'ils viennent dans leur plus bel habit, mais plus bel habit au sens le plus large du terme, ce qu'on appellerait chez nous en Europe l'habit du dimanche, c'est-à-dire, mais ça peut être son pyjama, enfin l'habit qui leur tient le plus à cœur, et puis une chanson où les paroles seraient quelque chose qui résumerait soit leur vie ou quelque chose qu'ils ne pourraient pas dire. Et des gens se sont inscrits, donc je voulais juste préciser aussi que je ne fais jamais de casting, j'aime beaucoup l'idée de me confronter à tous, à ceux qui me plaisent tout de suite et à ceux que je déteste tout de suite. Donc, tout le monde est dans le... À la fin, tout le monde est dans... Tout le monde doit être là.
C'est une forme de microcosme.
C'est une forme, je ne sais pas, assez étrange de...
Qui reflète réalité.
Non, parce que ça reflète d'abord, je pense avant tout, ma propre... Comment dire je suis littéralement obligée de négocier avec mes propres sentiments. Quand je dis que je fais un partage de travail de l'autorité entre l'artiste et le modèle, je crois que c'est pas pour rien. Je suis quelqu'un qui suis pas du tout dans l'idée moderniste du plus beau modèle qui va servir à l'artiste. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de beau modèle. Il y a en l'occurrence un matériau humain. Et le matériau humain est absolument pas corvéable. On peut pas lui faire ce qu'on veut faire. On est obligé d'avoir comme une sorte de responsabilité esthétique. Ça me plaît beaucoup. Et bon, les gens arrivent, donc ils sont arrivés. Et là aussi, je ne sais jamais pourquoi, parce que ça se passe un peu comme ça dans tous les pays. Je ne sais pas pourquoi. Et finalement, les gens répondent à ces annonces. Et ça couvre toujours, sans que je le veuille, une sorte de... Ça a une sorte de... Comment dire, de couverture extrêmement large des milieux sociaux. Par exemple, dans cette vidéo, il y a la femme la plus... Je ne sais pas si je veux dire la plus riche, mais... En fait, sur une femme...
Elle collectionne.
C'est la plus grande collectionneuse d'Amérique latine, qui est une femme magnifique, vraiment une femme extraordinaire, qui est une sorte de... qui n'est pas juste une collectionneuse, qui était aussi une cardiologue, qui a travaillé dans les hôpitaux, qui a une femme engagée, qui pendant la dictature, ils ont été les seuls, elle et son mari, à continuer à acheter des œuvres aux artistes interdits. Donc, ils ont la plus belle collection, pas seulement une collection internationale, mais ils ont aussi une collection, d'artistes. Ils ont l'histoire de l'Argentine dans leurs mains. Donc, j'ai envie de la citer, c'est Marion Helft. Et puis, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont venus des favelas. Il y a une famille qui est venue avec un repas indien en me disant qu'ils voulaient absolument être dans ce film et que s'ils y étaient, c'est qu'ils voulaient m'offrir un repas. Il y a eu des choses assez incroyables, jusqu'à ce fameux soir où est arrivée cette chose qui m'a beaucoup posé de questions en tant qu'artiste. Donc je ne sais pas si on en parle. C'est que donc un soir on sonne dans cette, je tournais dans une maison et donc un homme est arrivé qui est le représentant des Hiros, c'est-à-dire des fils des disparus. C'est une association assez illégale qui travaille de façon souterraine sur des actions assez violentes contre des criminels qui n'ont jamais été arrêtés. Et en fait donc il rentre dans le studio, il se présente et il me dit je veux être dans cette vidéo. Donc il va devant la caméra et il fait un speech et puis ça s'arrête et je dis vous savez, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a personne devant la caméra? Et tout à coup il était venu un peu comme un bulldozer, il me dit mais oui, mais c'est vrai, vous n'êtes pas de l'autre côté de la caméra. Et je dis oui, parce que je vous demande de projeter quelqu'un de l'autre côté de la caméra. Et il est retourné devant la caméra et là de cette personne complètement très speech comme ça avant, il y a quelque chose qui se transforme, il réajuste son, il arrive là, il avait fermé son blouson et il est devant la caméra et il va juste réciter le nom des criminels et il s'arrête, il sort et il me dit de toute façon ils ne seront jamais punis, alors je suis venue les déposer dans l'art parce que je sais que là ils y resteront pour toujours. Et j'ai eu une sorte de... Comment dire de... En fait, à ce moment-là, j'ai eu une sorte de choc où je me suis dit qu'il y avait... Est-ce que je... Il y avait une sorte de limite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une sorte de... En plus, pour tendre... Moi, j'étais au bord... C'était vraiment extrêmement... J'étais très secouée. Extrêmement secouée. Parce que nous aussi, de toute façon, en Europe, on a des problèmes avec la mémoire. Et que ma famille aussi, pendant la dernière guerre, a beaucoup souffert. Et à coup, je me disais... Mais c'est terrible, en fait, de... Ce que dit, finalement, Marie-Antoine, à la fin, elle dit, mais si quelqu'un ne vous présente pas ses excuses, on ne peut pas lui pardonner. Et finalement, il y avait aussi cette chose, c'est qu'il citait à la fin de cette liste le président de la République qui était à ce moment-là en place. Et donc moi, je me retrouvais dans cette situation où j'étais complètement bouleversée de ce qui venait d'arriver, où je suis obligée d'aller voir la directrice du musée, Laura Buccellato, que vraiment j'ai envie de lui rendre un hommage à cette femme ici, parce que... C'est une femme qui, très peu de temps avant, elle dirigeait à la fois le musée d'art moderne et puis le centre culturel espagnol. Et 2 mois avant ma venue, elle s'est fait licencier littéralement du centre culturel espagnol pour une position qu'on trouvait trop politique. Donc, quand je suis arrivée à Buenos Aires, j'avais appris ça. Donc, je suis allée la voir, je suis rentrée dans son bureau et je lui racontais ce qui s'était passé. Et il y a eu un moment immense de silence. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais, Laura? Et elle a dit... Tu le projettes parce que de toute façon, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai envie que quelque chose comme ça se passe. Et j'ai appris, et je ne le dirai pas là parce que peut-être qu'elle veut que ça reste complètement, mais j'ai appris qu'elle avait eu une histoire par rapport à la junte militaire extrêmement violente. Et elle m'a dit, écoute, si je perds mon boulot, je perds mon boulot, mais aujourd'hui, je règle cette question-là. Et on a passé ce film au musée. Et c'est vrai qu'il y a eu un bouche à oreille absolument extraordinaire. Et ça, c'est aussi toute l'Argentine, c'est-à-dire tout le monde savait, mais personne n'en parlait. Et tout le monde venait voir.
Donc il y avait des files d'attente,
oui,
pour voir ta pièce.
Oui, ça a été un truc assez, assez fou. Et dans tous les journaux, tout le monde parlait de la pièce, mais jamais de ça. Mais tout le monde savait. Et en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que cet homme n'est pas en train d'accuser. Voilà, il dit juste les noms. Voilà.
Et tout le monde sait.
Et tout le monde sait. Et qu'effectivement, ils ne sont plus... Bon, cette pièce n'est pas vendue, mais j'espère qu'un jour elle le sera. Et que ce jour-là, c'est inamovible.
Enfin, l'histoire est inscrite quelque part.
Oui, et je trouve que c'est juste qu'elle soit inscrite.
Et puis bon, y a cette intervention de Marion dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, oui. Oui, en fait, d'ailleurs c'est bizarre parce que j'ai des règles assez strictes avec moi-même. D'ailleurs, je les bidouille pas après. Enfin, je veux dire, je prends les gens dans l'ordre où ils arrivent. Parce qu'en fait, ça révèle aussi ma propre attitude au fur et à mesure. C'est-à-dire, je pense que le film, la vidéo change aussi au fur et à mesure. Et peut-être qu'à la fin, elle devient plus intense. Parce que moi, je change au fur et à mesure des jours. Et que peut-être à la fin, il y a des choses que j'arrive mieux à faire avec eux ou avec moi. Mais je sens que c'est... Je sens ça aussi. Enfin, je l'ai revu là, 3 ans, 2 ans et demi après. Grâce à toi. Et d'un coup, des choses me sont apparues comme ça. J'étais très contente de la revoir dans ce contexte. Parce que je me suis dit, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la fin, on sent que ça, pas que ça dérape, mais c'est vrai que Marion Elft, à la fin, va parler de la question de la...
Du pardon.
Du pardon. Et donc, elle vit en famille avec son fils et ses 2 petites filles qui sont très petites et qui, tout à coup, se détournent de la caméra et regardent leur grand-mère qui, sûrement, parce que je pense qu'elles n'avaient sûrement jamais entendu leur grand-mère parler comme ça. Parce que c'est une femme extrêmement... comment on peut dire... C'est une femme très à l'aise dans le monde social, c'est une collectionneuse. Donc, et tout à coup, c'était Marion Elf que je ne connaissais pas, qui va faire cette apparition dans cette vidéo, dans ce film, j'ai envie de dire. Et ce qu'elle laisse, ce qu'elle décide de laisser, c'est cette question de l'impardonnable.
Voilà. Tu as une faculté de faire partager aussi un monde, mais qui est aussi qui est
ton, mais qui est très ténue quand même.
Qui est très ténue et qui est là aussi, je pense, grâce à ta faculté de communiquer, de sentir. Enfin, il y a quelque chose qui se passe,
oui,
qui va au-delà de n'importe quel travail qui pourrait entrer dans un registre tel que celui-là. Les journalistes qui sont venus ces derniers jours étaient étonnés, parce que c'est vrai que c'est pas...
C'est pas un documentaire, non, pas du tout.
C'est juste, enfin, quand tu parles de caractère, enfin...
Oui, ce qui est très... Je comprends complètement ce que tu veux dire. C'est très difficile à définir parce que je pense que... Bon, effectivement, ça n'a rien à voir avec du documentaire. Est-ce que c'est faux? Les gens disent toujours, quand ils ont travaillé avec moi, on regarde tout ce qu'ils ont fait. Et ils disent, souvent, ils disent « Ah, c'est pas moi. » Et en fait, c'est eux. Mais c'est eux, d'une façon où socialement, c'est pas possible. Ça peut exister que dans l'art. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne racontent pas finalement leurs histoires. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver cette espèce de point limite où quelque chose se montre en restant finalement d'une totale abstraction. C'est-à-dire qu'un visage ou un corps, par exemple, tout à l'heure, on regardait avec une personne qui était là, et il y a un jeune homme et une jeune femme rentrent. Et on sent immédiatement que le jeune homme est super mal à l'aise vis-à-vis de cette jeune femme. Il ne sait pas où, en fait, tout le temps où il va être là, il ne sait pas où se mettre. Dans cet espace extra... Et elle a toute la place. Et lui, il n'arrête pas de... En fait, ce qui m'intéresse complètement, c'est ce qu'on appelle la proxémique, c'est-à-dire la distance entre les corps, et cette espèce de distance tragique où à la fois on est trop près ou trop loin de l'autre, cette espèce de distance vachement dangereuse. Et dans la vidéo, par exemple, à un moment donné, il y a quatre personnes qui vont revenir deux fois. Scène incroyable. Où tout se reconfigure en deux passages. Tout ce qui se passe entre eux. Ça, c'est magique.
En tout cas, merci parce
beaucoup.
Que c'est un grand moment et puis de pouvoir
merci,
t'avoir
Sarah,
ici.
Merci Sarah sur cœur parce que je ne serais jamais merci. Venue sans
puis,
toi ici. Et ça oui. C'est aussi quelque chose de... Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'expo. D'abord, je disais tout à l'heure que je trouvais que... Enfin, c'est la première fois que je venais dans ce lieu. Je connaissais comme tout le monde, mais je n'étais jamais venue ici. Et ce que j'aime beaucoup dans ce lieu, c'est peut-être aussi, même si ça n'a rien à voir, j'aime beaucoup les lieux qui sont dans des tailles comme ça, ce que j'appelle des tailles humaines, c'est-à-dire où l'art peut se déployer, en même temps il ne devient pas héroïque, il ne devient pas une espèce de chose spectaculaire. Parce que spectaculaire, c'est toujours ok, j'appelle ça le syndrome du taboulé, c'est-à-dire c'est super bon, puis deux minutes après on a faim. Donc il y a ce côté comme ça, c'est pas intime non plus, mais il y a quelque chose comme ça, comme ce que... Je disais tout le temps dans cette distance, je trouve que l'espace est hyper intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est la façon d'avoir mélangé des œuvres, mais en étant quand même extrêmement respectueuse de la distance de chacun. Et pourtant, ça se mélange. Donc, ce que j'appelle, ce que je trouve assez réussi, c'est ce que j'appelle que dans un nous, il reste du jeu. Et vice-versa, c'est qu'il y a du nous dans cette expo. Mais il y a du jeu et il y a aussi du jeu et du nous. Donc voilà, et puis quand on arrive, les artistes du coup se voient aussi. C'est moi qui ai l'habitude d'aller dans des manifestations collectives, des gros trucs et tout, je peux dire que ça c'est extrêmement précieux.
En tout cas, c'est un lieu qui garde cette humanité. Et,
Oui, parce que je pense que l'art a à voir quand même, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, et même que si ça paraît ringard de me dire, que ça a quand même à voir avec la condition humaine.
Tout à fait. Hein? Et là, il y a un sens du partage. Et c'est très beau de voir aussi tous les artistes qui s'intéressent aux œuvres.
Oui,
et
oui du coup,
aux autres personnalités sont là, avec qui ils partagent une expérience commune.
Oui, mais c'est parce qu'aussi on sent que le lieu, enfin, je sais pas, je suis venue tout à l'heure, donc j'ai qu'une... Moi, je filme les gens depuis des années, donc j'ai un rapport comme ça, je les regarde, quoi. Et tout le monde est extrêmement investi. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que... j'aime encore les lieux qui y croient.
Oui, tout à fait.
Ça me paraît bizarre. Mais n'empêche que je ne sais pas résumer comment, autrement que on en crève de ces espèces de soit de marasme, soit de de choses où tout est lisse. Pour moi, la violence, c'est lisse.
On peut terminer sur ce mot.
Merci beaucoup, Sarah.